Chapitre 11. Athalie. Athalie était petite fille d'Omri, fille d'Akab, sœur de Joram d'Israël, femme de Joram, roi de Juda, et mère d'Akasia. Elle avait d'autres fils, dont le plus grand nombre, sans doute, car ils étaient 42, chapitre 10, verset 14, appartenaient à d'autres mères. Il nous est dit d'eux et de leur mère, Athalie, cette méchante femme, et ses fils avaient dévasté la maison de Dieu, et toutes les choses saintes de la maison de l'Éternel, il les avait aussi employées pour les Baals. 2 Chroniques 24, verset 7. Est-il donc étonnant que Dieu eût permis leur extermination par Jéhu? Lorsque Athalie apprit la mort de son fils Akasia, les frères du roi avaient, comme nous l'avons vu, subi le même sort avant lui. Cette femme ambitieuse, sans scrupules et sans affection naturelle, mit à mort tous les fils du roi, ses propres petits-fils, afin de s'assurer le royaume. Le jugement de Dieu passait comme un vent de tempête pour tout balayer en Israël et Juda. Les instruments de ce jugement étaient le zèle charnel de Jéhu et l'iniquité du cœur idolâtre d'Athalie. L'un et l'autre produisent les mêmes résultats, le massacre et le meurtre. Ces instruments, et surtout Athalie, s'imaginent accomplir par là leur dessein, mais ne sont en fin de compte que l'épée de l'Éternel pour revendiquer par cette extermination la sainteté de son caractère. Seulement Dieu brisera l'épée quand elle aura accompli son œuvre et montrera en la brisant qu'il est un Dieu juste qui ne laisse pas le crime impuni. La maison royale d'Israël est détruite sans qu'il en reste un seul homme, et Dieu recommence encore les essais de sa patience avec une nouvelle dynastie, celle de Jéhu. Mais il n'en est pas ainsi de la maison de Juda. Le Dieu fidèle tient sa parole, car il avait dit qu'il donnerait à David une lampe pour ses fils à toujours. Chapitre 8, verset 19. Il se conserve, dans la personne de Joas, un faible lumignon qu'il n'éteint pas et par lequel une ère de bénédiction et de crainte de l'Éternel sera inaugurée pour le royaume de Juda. La longue patience de Dieu reculait encore le moment de rejeter ce peuple coupable. Jehosheba, fille de Joram de Juda, et sœur d'Akasia, femme du souverain sacrificateur Jehoiada, dérobe Joas au massacre des fils du roi et cache 6 ans son neveu auprès d'elle dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans la partie de la maison où demeuraient son mari et les sacrificateurs. La présence de la semence de David manifeste ce qui était selon le cœur de l'Éternel en Juda. Autour de loin se groupe et se concentre tout ce qui peut concourir à une restauration du peuple. Malgré tout le désordre, le lieu où l'Éternel faisait habiter son nom subsistait encore, et le roi y était en sûreté sous sa garde. Et de plus, un souverain sacrificateur fidèle pouvait marcher devant la face de son oint et régler toutes choses selon la pensée de Dieu dont il avait le secret en l'absence d'une royauté reconnue. La 7e année, vraie année de jubilé et de délivrance, Jehoiada montre le fils du roi aux officiers de l'armée. Il les prépose avec les plus minutieuses précautions à la garde de cette personne sacrée, de ce précieux joyau, sans lequel la maison de David s'éteindrait. Cet objet inviolable, nul profane ne pourra l'approcher sans encourir la mort. Ses satellites l'accompagneront à son entrée et à sa sortie. On sent que le cœur de Jehoiada brûlait pour le fils de David, son unique espérance et celle du royaume. Le perdre, c'était tout perdre, et il ne voulait à aucun prix se le laisser enlever. Jehoiada n'est-il pas pour nous un exemple? Souffrirons-nous, en ces temps fâcheux, plus périlleux malgré les apparences que ceux d'Athalie, qu'on touche parmi nous à la personne du Fils de Dieu? Entourons-le, chacun, ses armes à la main. Nos armes ne sont pas charnelles, elles sont l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Serrons-nous autour de lui, ne fussions-nous que quelques-uns, et Dieu sera avec nous, comme il le fut avec le groupe fidèle qui entourait Joas, et les efforts de l'ennemi pour détruire le nom du Saint-Fils de Dieu et anéantir son témoignage seront déjoués. Jehoiada, pour défendre la royauté, recourt aux armes de David. Il donna aux chefs de centaine les lances et les boucliers qui avaient appartenu au roi David et qui étaient dans la maison de l'Éternel. Verset 10. Il retournait ainsi à l'origine de l'institution divine de la royauté. ses armes étaient bonnes et conservées dans la maison de Dieu. De même, nous aussi, nous avons à défendre ce qui était au commencement, avec la parole que nous avons entendue dès le commencement. Cette parole, nous n'allons pas la chercher dans les arsenaux humains, mais dans le temple de Dieu. Elle y est cachée dans le lieu très saint où l'Esprit de Dieu seul peut nous la révéler et nous la faire saisir. Dès lors, on fait sortir Joas à l'entrée de la maison dans le parvis. Le fils du roi a sur lui l'onction qui le consacre, la couronne, signe de sa dignité royale, et le témoignage, cette loi dont le roi assis sur le trône devait faire une copie pour lui et d'après laquelle il apprenait à craindre l'Éternel et à garder ses statuts. Deutéronome 17, versets 18 à 20. Malgré la pauvreté environnante et l'envahissement de l'apostasie, que manquait-il de fait à cette restauration? Le temple de Dieu, son habitation au milieu des siens était là. Le souverain sacrificateur, intermédiaire entre l'Éternel et le peuple était là. Le fils de David était là, sans doute reconnu seulement de quelques-uns, mais bientôt acclamé de tout un peuple. L'onction, le Saint-Esprit était là, et un faible résidu, acclamait loin de l'Éternel et l'entourait comme les hommes forts de David avaient jadis entouré le roi. Pour Athalie, versets 13 à 16, la restauration de la royauté selon Dieu était une conspiration. Elle crie « conspiration », comme Joram d'Israël avait crié « trahison ». Ni l'un ni l'autre ne peuvent un instant faire valoir leurs droits. Joram tombe sous la verge de Dieu. Athalie ne peut revendiquer ses droits quand le moment arrive où l'élu de l'Éternel est manifesté. Il en sera de même des ennemis de Christ, devant les jugements et devant l'apparition de la gloire de son royaume. Mais quelle joie pour le cœur de Jehoiada et de son épouse fidèle! Ils avaient attendu patiemment, pendant tout un cycle d'années, le moment de l'Éternel pour la manifestation de son oint. Ils ne s'étaient pas laissés décourager, ni poussés par l'impatience, à se servir de moyens humains pour faire triompher la cause du roi. Pendant ces longues années, ils avaient vécu dans le secret avec l'objet précieux de leur espérance et recueillaient enfin les résultats glorieux de leur foi. Imitons leur patience. Notre Joas est encore dans le lieu secret du sanctuaire. Apprenons-la de jour en jour et d'année en année à le mieux connaître. Qu'il y grandisse à nos yeux. Bientôt il apparaîtra et tous jouiront de cette vue. Mais quelques-uns aujourd'hui, comme Jehoiada et sa femme, pour avoir vécu avec lui, quand il était encore invisible, auront porté, en attendant sa gloire, les rayons de son aurore, comme l'étoile du matin levée dans leur cœur. Et Jehoiada fit une alliance entre l'Éternel et le roi et le peuple, qu'il serait le peuple de l'Éternel, et entre le roi et le peuple. Verset 17. Une alliance suppose deux parties. Ici, sous la loi, elles s'engagent mutuellement. L'Éternel d'un côté, le roi et le peuple de l'autre. C'est comme si le roi répondait pour le peuple et le peuple pour le roi, comme ne formant qu'un tout vis-à-vis de l'Éternel. Mais cet engagement est rendu plus solennel encore par l'alliance entre le roi et le peuple. Tous deux s'engagent mutuellement à suivre le même chemin. Et tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ses autels et ses images, ils les brisèrent entièrement. Et ils tuèrent devant les autels Matan, sacrificateur de Baal. Verset 18. C'est une communauté de zèle pour Dieu. Il n'est nul besoin des ruses et des artifices de Jéhu. Chapitre 10, verset 18 à 27. Pour extirper Baal de Juda. On voit ici l'action puissante de l'Esprit de Dieu dans un peuple, bien plus béni, en somme, que l'action d'un seul homme, alors même que, de fait, il accomplit la volonté de Dieu. Jéhu avait conçu son plan tout seul et en confiait l'exécution aux coureurs et aux capitaines. Ici, le peuple tout entier, revendiquant son titre de peuple de l'Éternel, lié intimement au roi que Dieu lui a donné, extirpe Baal, sa maison et son culte, et pour 180 ans environ, jusqu'à l'impie Manassé, cette abominable idolâtrie disparaît de la maison de Juda. Jéhu avait assemblé tout le peuple pour lui parler avec ruse, n'ayant sans doute pas confiance en leur disposition. Ici, le peuple agit en vertu de l'alliance, et c'est par là qu'il faut commencer. Le zèle de Jéhu n'avait pas rétabli l'alliance, tout en détruisant Baal, et il ne va pas au-delà. L'ancienne idolâtrie, les veaux de Jéroboam subsistent pour lui, tandis que la nouvelle est extirpée. Il en est toujours ainsi quand la chair a part aux réformes. Elle ne peut remédier à l'abandon de Dieu qui la caractérise dès l'origine, sinon elle ne serait plus la chair. L'homme naturel, et cela se passe chaque jour sous nos yeux, peut bien extirper une idole, que ce soit le vin ou tout autre vice, mais pour faire paraître à la place et mettre d'autant plus en relief l'idolâtrie de lui-même, sa propre justice et son absence de conscience à l'égard de Dieu, d'un Dieu qu'il prétend, comme j'ai eu, servir avec zèle. Athalie est conduite dans la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux pour y être mise à mort. Joas entre par un autre chemin, celui des coureurs, afin de s'asseoir paisiblement sur le trône de David. Il ne faut pas que le chemin de ce trône soit souillé par le sang. Il n'en fut pas ainsi de Jéhu vis-à-vis de Jézabel. Le sang de cette dernière rejaillit contre la muraille et contre les chevaux, et Jéhu, la foulant aux pieds, entra dans la maison pour manger et pour boire. Chapitre 9, versets 33 et 34. Aussi toute cette scène, quoique décrétée par Dieu, respire-t-elle la furie de celui qui en est l'auteur. En Juda, tout se passe dans le calme solennel et dans la conscience de la présence de Dieu entretenue par le souverain sacrificateur. C'est avec l'Éternel que les âmes ont affaire, pour lui qu'elles agissent, son honneur qu'elles recherchent, car sans ses mobiles, il ne peut jamais y avoir une purification ou une restauration complète. En Juda, cette présence de Dieu, agissant sur la conscience du peuple, amène après la purification un résultat béni. Tout le peuple du pays se réjouit et la ville fut tranquille. Verset 20. La joie et la paix sont le partage des âmes qui, pour plaire à Dieu et pour le servir, se sont séparées de ceux qui le déshonorent.